Éthique religieuse par le Père Philippe, à Saint-Jodard, le 23 avril 1990.
quand l'enfant acquiert une prudence suffisante, l'autorité du père n'est plus qu'un conseil. Au sens strict, au sens philosophique. Le pater familias reposait sur des traditions religieuses fausses qui faisaient que le père avait le droit de supprimer son enfant. Si son enfant était difforme, ce qui se faisait à Sparte, ce qui se faisait chez les Romains aussi. C'était pas beaucoup plus beau que maintenant. Mais... faut bien se dire ça. Mais c'était sur des traditions religieuses fausses. Donc c'était, j'allais dire, pardonnable, excusable. Ce qui est inexcusable aujourd'hui, c'est qu'il y a les traditions chrétiennes. Il y a eu une morale chrétienne. Notre Europe a été chrétienne. De sorte que l'aspect d'aujourd'hui est une décomposition d'une éthique chrétienne. Tandis qu'avant, c'était une montée vers l'éthique chrétienne. Et je vous ai déjà dit, au point de vue philosophique, il faut être très attentif à ça, le jugement est tout à fait différent. La décomposition va très vite, et la montée va très lentement. Celui qui monte a priorité sur celui qui descend. Dans la bonne conduite. Celui qui monte a autorité, c'est plus difficile de monter, c'est plus lent. Celui qui descend n'a jamais priorité. C'est des petits signes très curieux, et c'est très amusant de voir ça. Et dans les décompositions, ça va très très vite. Vous voyez, dans le siècle, notre siècle, a été un siècle de décomposition éthique. Pour la France et pour l'Europe. Et pour l'Amérique. Extrêmement rapide. Les historiens, quand ils verront ça, ils verront d'où ça vient. Ça. Cette décomposition, cette chute. Extrêmement rapide. Et ça augmente, hein, ça continue. Alors, comprenons que dans une éthique de l'amour d'amitié, je fonde la famille. Et je crois que l'enfant qui doit obéir à son père obéit parce qu'il est incapable par lui-même de découvrir sa finalité. Selon Aristote, la femme doit obéir à l'homme dans le mariage parce qu'elle est incapable par elle-même de découvrir sa vraie finalité, sa prudence. Et c'est Aristote, ça. C'est les Grecs. Depuis le... il y a eu la Vierge Marie. Et ce n'est pas au sens strict une vertu qui va se développer dans l'enfant. C'est une docilité à quelqu'un qui a une autorité naturelle de père parce qu'il a engendré son fils. Vous voyez, l'autorité qui repose sur la génération est une autorité, j'allais dire, dans l'ordre génétique et pas dans l'ordre de nature. C'est une autorité génétique et non pas dans l'ordre de nature. C'est une autorité dans l'ordre du devenir. Et donc, qui n'atteint pas vraiment la structure de l'autorité. Et l'obéissance qu'on doit à un père de famille qui repose sur cette autorité génétique, reste de l'ordre de la disposition. Ça dispose merveilleusement à la vertu d'obéissance, mais pas plus. La vertu d'obéissance exige plus que l'enfant qui obéit à ses parents. Il obéit à ses parents ordinairement par crainte de recevoir une bonne gifle, une bonne fessée. L'autorité du pater familias, hein. Et c'est ce qui explique du reste ces rancœurs, ces gémissements qui dureront jusqu'à la fin de notre vie. On gémira d'avoir eu un père qui était, voilà, pater familias. On n'a pas acquis la vraie vertu. Si on avait acquis la vertu, il n'y aurait pas du tout de repliement, d'amertume. Il n'y aurait pas ça. Ce serait parfaitement digéré. l'obéissance d'un enfant jusqu'au moment où il acquiert la prudence est une obéissance qui n'est que de l'ordre de la disposition et qui n'est pas une vertu parce qu'elle n'atteint pas le principe. Elle reste ex parte materiae, donc du côté du devenir, parce qu'il est imparfait. Et l'obéissance du citoyen et du même ordre sont des lois positives qui rappellent, puis c'est tout, avec la coercition. Si tu ne fais pas ça, on te coupe la main. Bon, alors, pour ne pas avoir la main coupée, on paie ses impôts. Pour ne pas avoir la main coupée, on obéit. Pour ne pas être en prison, on obéit. Pour ne pas payer une amende, on obéit. Est-ce que vous obéissez? Est-ce que c'est la vertu d'obéissance qui fait que vous arrêtez au feu rouge? Est-ce que c'est la vertu d'obéissance qui fait que... Je crois pas. Discipline. Disposition. Discipline. C'est du facere. En grosse partie. C'est pour ça que tout le monde obéit. Alors vous allez dire, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Depuis qu'on doit s'arrêter au feu rouge, voyez, l'éducation, voyez, l'automobile permet que tout le monde soit vertueux, tout le monde soit obéissant. Tout le monde s'arrête au feu rouge. Ils sont tous obéissants, admirez ça. C'est comme ce bon père espagnol à Fribourg, quand il a vu l'armée française en bleu, ils sont tous consacrés à la Vierge Marie. C'est admirable. Alors quand ça a changé de couleur, évidemment, c'est... ne confondons pas la vertu et la discipline. Un pion sévère arrive à avoir de la discipline, mais il ne fait pas acquérir la vertu. La preuve, c'est que dès qu'il a le dos tourné, vite, tout le monde fait l'inverse. Et il crée des refoulements. Donc, il faut être attentif à ça. Je crois. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ça, je voudrais bien que vous arriviez à le saisir pour voir si c'est vrai. Parce que je l'ai vu nulle part. Et c'est très important pour nous parce qu'on est en face de Freud. Nous devons, au point de vue éthique, réhabiliter l'autorité. Et l'autorité paternelle. On doit la réhabiliter. Et comment la réhabiliter? Je crois que c'est par l'éthique religieuse. Et uniquement l'éthique religieuse. Au fond, Freud s'attaque à une discipline du pater familias. À une discipline farouche qui est ce que nous voyons dans notre monde d'aujourd'hui. La discipline a remplacé l'autorité. Le pion a remplacé l'autorité. Mais on ne voit plus d'autorité. Et c'est vrai que le pion crée des complexes. Si on a eu un père terriblement sévère, ça a créé des complexes. Un père qui a commandé à ses enfants comme il aurait commandé à des soldats. Si on a un père qui a été gendarme, et notre père a commandé à ses enfants comme il aurait commandé. Alors à ce moment-là, ça crée des complexes. Parce qu'il n'y a pas de vertu. Imiter quelqu'un qui est vertueux sans avoir des vertus crée des complexes. C'est pour ça que c'est pas comme votre noviciat, vous comprenez? Parce que vous avez à côté de vous des saints extraordinairement vertueux. Et vous, vous êtes un petit diable. Pas du tout de vertu, rien du tout. Pas d'éducation, rien du tout. Et vous voyez ces hommes extrêmement vertueux à côté de vous, là, vous imitez. Vous avez un père maître, saint, mais pleinement vertueux, à vous imiter. Et quand il n'y a que l'imitation, ça peut être un moment, mais quand ça dure trop longtemps. Et d'autre part, l'imitation est une voie d'accès. Alors, vous voyez, il faut jauger la voie d'accès et puis des soupapes de sûreté. Parce que s'il n'y a pas que la voie d'accès, qui est toujours un peu souterraine, ça dure trop longtemps, au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'oxygène. Et alors on étouffe. Et on n'arrive plus à continuer. C'est extrêmement mystérieux, ça. Parce que c'est très important, parce que c'est là où on touche que c'est que la vertu. La vertu n'est pas une discipline. La vertu est une autre nature qui permet toute la souplesse de la vertu et toute l'exigence de la vertu. Alors, au point de vue éducatif, le gros problème est là. Si vous avez des chefs, des autorités extrêmement vertueuses qui sont comme des causes exemplaires, vous voyez, ça réalise en nous une discipline un peu stoïcienne, mais pas des vertus. Alors vous imitez. Et au bout d'un certain temps, ça craque. Pourquoi se fait-il qu'en sortant du noviciat, on est moins vertueux? Parce que le père n'était plus là. À la cause exemplaire n'étant plus là, et la vertu n'étant pas présente en nous, c'est comme si le gendarme tourne le dos. Alors à ce moment-là, on brûle le feu rouge. La nuit, sans gendarme, on brûle le feu rouge. Alors quand on en est très conscient, on est très conscient de ça, il n'y a aucune faute au point de vue art, parce qu'on est intelligent. Mais attention, est-ce la vertu de prudence ? Je prends ces exemples-là parce que c'est très important pour nous de saisir la différence entre l'imitation et la vertu. C'est l'exemple que je vous donnais une fois. Brave religieuse, brave supérieur, je prêchais une retraite dans un couvent. Et la supérieure m'a dit, vous verrez mon père, le silence qu'il y a dans la maison. C'était le silence d'une serre surchauffée. Une serre surchauffée et silencieuse. Mais on n'y reste qu'un instant. Parce que c'est impossible, on étouffe, on est asséché, si on reste un peu trop longtemps. C'est pas le vrai silence. Le vrai silence intérieur vient d'amour. La vertu est amoureuse, la discipline ne l'est pas. La discipline, on dit, le plus vite que ce soit terminé, c'est tout. Combien de temps il va nous rester là-dedans ? Alors il faut discerner les deux, c'est très très important. Alors essayons de voir l'apparition de la véritable autorité et donc de la véritable obéissance. Et c'est là où on comprendra qu'est-ce que c'est que la naissance de la vertu d'obéissance. Je crois que c'est à l'égard de notre acte d'adoration qu'on découvre ce qu'est la véritable autorité. Donc à partir du Créateur. Ce n'est pas de l'ontologisme, hein, parce que c'est l'intelligence qui fait ça. C'est pas la foi. Si c'était la foi, je dirais non.
Je comprends pas bien au niveau politique, parce que c'est vrai que de fait, on agit souvent plus par discipline que par obéissance, mais est-ce que le bon citoyen n'est pas celui justement qui utilise la discipline pour acquérir la
vertu? Non, mais attention, ce que je veux dire, c'est que est-ce que l'État comme tel, est-il capable d'éduquer à la vertu? C'est ça la question. Vous voyez, je dis, on peut très bien être un bon citoyen sans avoir acquis la vertu d'obéissance.
Est-ce que le bien commun ne nécessite pas justement... Est-ce que le premier bien commun d'une société, c'est pas d'avoir des citoyens vertueux?
Des citoyens
vertueux.
Vertueux, mais oui, mais quand il s'agit d'aller jusqu'à l'éthique religieuse, et sans éthique religieuse, vous ne l'aurez pas.
Le bien commun ne peut pas suffire.
Absolument pas. Le bien commun n'éduque pas au niveau de la vertu. Ça fait une discipline. C'est beaucoup plus profond, la vertu.
Le bien commun, quand même, une nouvelle finalité.
Ah, non. Pas une nouvelle finalité. politique. S'il n'y a pas d'éthique, il ne peut pas y avoir de philosophie politique. Oui. Et c'est pour ça qu'Aristote donne l'éthique personnelle avant l'éthique politique. Vous voyez ? Alors que Platon fait l'éthique politique avant l'éthique personnelle. Et l'éthique politique comme telle ne peut pas, parce que le bien commun n'est pas une véritable finalité. C'est une fin à la fois que je réalise moi-même. Vous voyez ? Prenez la finalité d'une industrie. Bon, c'est à la fois quelque chose qui me finalise et quelque chose que je réalise. Dans la mesure où je réalise, ce n'est pas ma finalité, puisque c'est moi qui le fais. C'est du côté de l'efficacité. Et en même temps, ça finalise. Mais ça ne finalise pas totalement. Alors, au point de vue politique, ça va un peu plus loin, c'est sûr. Mais ça ne touche pas. L'État ne me donne pas le bonheur. Et l'État ne peut pas me donner le bonheur. Et le bien commun ne me donne pas le bonheur. Toute finalité me donne un certain bonheur. L'amour d'amitié est au-delà du point de vue politique. Et c'est pour ça que j'ai fondé les vertus, non pas sur le point de vue politique, mais sur l'amour d'amitié. Oui. C'est le point de vue des finalités qui peut seul donner le vrai. Alors on a gonflé le bien commun. Oui. Et on l'a gonflé apologétiquement, parce qu'on l'a supprimé. Alors je comprends très bien que les gens qui font de la politique gonflent le bien commun, les gens de droite. Vous voyez ? On sent très bien ça. Alors on gonfle, on va aller jusqu'au bout. Mais au bout d'un certain temps, non, ça devient un mythe. Oui, alors c'est différent. Vous voyez, alors là, il peut y avoir d'autres aspects délicats, mais il est fondé sur le point de vue religieux. Donc il y a une éthique religieuse. Alors, dans cette éthique religieuse, il faut que l'éthique religieuse personnelle aille au-delà du bien commun de l'État. Si vous enfermez le bien commun, le bonheur personnel dans le bien commun de l'État, par le point de vue religieux, ça devient du fanatisme. C'est ça le fanatisme, vous voyez. C'est de mettre le bien commun d'un pays avant le bien personnel. Alors vous avez le fanatisme religieux. Parce que quand vous avez un bien religieux qui reste personnel, il n'y a pas de fanatisme. Le fanatisme est toujours au niveau politique. C'est le tout, l'anonymat du tout qui l'emporte. Alors on tombe dans un fanatisme. Et c'est très vrai que le point de vue religieux me permet d'atteindre des vertus. Vous voyez, je crois, encore une fois, je suis dans une attitude de recherche avec vous. Mais c'est intéressant à cause de ça. Parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas aujourd'hui. Et je crois qu'on doit l'aborder. Et tant qu'on ne l'a pas abordé, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas avec suffisamment de netteté. Il me semble bien qu'une éthique humaine de l'amour d'amitié, donc fondamentalement humaine de l'amour d'amitié, est une éthique qui nous permet seulement de découvrir des vertus cardinales. Et là, d'atteindre vraiment les vertus cardinales, parce qu'on atteint une finalité. Je ne peux pas plus. Donc le point de vue politique, parce qu'il ne me donne pas une nouvelle finalité vraie, ne me permettra pas d'atteindre l'autorité et l'obéissance. Et je crois qu'en éthique, purement de l'amour d'amitié, je ne peux atteindre qu'une docilité à l'égard de l'humilité et à l'égard de l'obéissance. C'est une disposition. Ce que j'appelle une docilité. Une disposition, pas plus. Et je n'atteins pas la vertu. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas une véritable autorité. Découvert une véritable autorité. Alors, c'est la découverte de ce qu'est l'autorité. Oui. Et je crois que la découverte de ce qu'est l'autorité, c'est ce qui est dit dans l'écriture. Alors, je m'en sers au point de vue philosophique comme une opinion. Toute autorité est paternelle. Toute toute autorité vient du Père. C'est ce que dit Jésus à Pilate. Or, Jésus à Pilate ne parle pas en tant que croyant. Pilate n'aurait rien compris. Jésus parle à Pilate en tant qu'il est stoïcien, Pilate. C'est un philosophe, Pilate. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Pilate peut comprendre ça. C'est le côté intellectuel de son message. Il ne dit pas, je suis venu apporter le feu d'amour. Pilate aurait dit, il est fou. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On a affaire à un fou. Non, je dis, rendre témoignage à la vérité. Pilate peut comprendre ça. Oui, Jésus s'adapte d'une façon telle qu'il faut comprendre que le langage en face de Pilate est un langage de Jésus intellectuel en face d'un stoïcien. Et il dit à Pilate, tu n'aurais aucune autorité sur moi, c'était pas donné d'en haut. Alors là, voyons, touche, quel est un problème. Vous savez bien, le gros problème de l'autorité. Est-ce que l'autorité vient de la base ou est-ce qu'elle vient d'en haut? Et c'est pour ça que quand on disait ça à certains théologiens d'aujourd'hui qui ont une herméneutique particulière, ils disaient tout simplement, si Jésus avait parlé aujourd'hui à un président de la République, il lui aurait dit, tu n'aurais aucune autorité sur moi. Si elle n'a été donnée par la base. Si elle n'a été donnée par les élections. Est-ce que les élections donnent l'autorité? Voyons, on touche là un problème très très délicat aujourd'hui. Alors il faut être... C'est très délicat et c'est très important. Parce que c'est avec l'autorité, c'est l'obéissance. Est-ce que j'obéis au plus grand nombre? Toute la question est là. Et donc il faut saisir le lien autorité-obéissance. Il n'y a pas d'obéissance sans autorité. À quel moment, philosophiquement parlant, nous découvrons l'autorité? À travers l'amour d'amitié, je ne découvre pas l'autorité au sens absolu. Je ne découvre que des compétences. Et les compétences, ce n'est pas suffisant pour l'autorité. Un homme très compétent n'est pas celui qui est nécessairement autorité. C'est nécessaire, c'est un élément nécessaire à toute autorité. Tous ceux qui exercent autorité doivent être compétents. Je ne définis pas l'autorité par la compétence. Je tomberai autrement dans les technocrates. C'est l'erreur de la technocratie. Vous êtes compétent, donc vous avez l'autorité. Ah, pas du tout. Vous avez l'autorité si vous avez le sens de la finalité. Si vous n'avez pas le sens de la finalité, vous ne pouvez pas être autorité. Puisqu'on est serviteur de la finalité dans l'autorité. Alors, c'est très important de saisir ça. Et saisir à quel moment, au plan philosophique, je découvre la véritable autorité humaine pour l'homme. Autre chose. L'exercice de l'autorité dans l'éducation, autre chose, le dressage. Confusion que Mono fait quand il dit on éduque un petit enfant comme on éduque un chat. On dresse un chat à être propre. Tandis qu'on éduque un enfant. Et Mono dit textuellement, dans les rencontres à Genève, il dit textuellement que c'est la même chose. Et voyez ces confusions-là, parce que dans le dressage, qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un qui dresse un chien? La compétence. Et uniquement la compétence. On ne demande pas autre chose. Il sait comment réagit un chien. Et il sait qu'on ne dresse pas de la même manière un toutou, un bon petit toutou, et un chien de garde. Un chien loup, un berger allemand, c'est différent, on ne dresse pas de la même façon du tout. Ça, il le sait, il a la compétence. Compétence, ce que les réactions passionnelles du chien. Et on ne lui demande pas autre chose. Il n'a pas au sens strict autorité sur le chien. Mais non, il a la compétence. Il sait s'imposer. C'est un pion. Un excellent pion. Alors, il me semble, et ça, c'est ça qu'il faut essayer de découvrir, que c'est par l'adoration que nous découvrons l'autorité au sens fort, au sens précis. Là, vous voyez, là, si c'est vrai, je dirais, l'autorité est nécessairement religieuse. L'autorité capable d'engendrer en moi la vertu d'obéissance. Sans cette attitude-là, l'autorité sera toujours de l'ordre de la compétence ou de l'ordre d'un choix. Suffrage universel. Il y aura des éléments d'autorité, mais il n'y aura pas l'autorité au sens fort. Je cherche, hein. Si vous me prouvez l'inverse, j'en serais très heureux. C'est pas parce que je veux pas que l'autorité soit religieuse, c'est pas ça du tout. Mais c'est un peu terrible, au plan philosophique, d'arriver à dire ça. Oui. Est-ce que ça montre alors la faillite fatale de toute politique purement séculaire, la sécularisation. Et ça montre la grandeur du point de vue religieux. Je crois ça. Dans l'adoration, je découvre le Créateur. Puisque l'adoration porte sur le point de vue du Créateur. Et en découvrant le Créateur, je découvre celui qui est source de mon être, de ma lumière, de mon amour, source de mon esprit. Et je découvre ce lien de dépendance radicale de mon esprit à l'égard du Créateur. Et je découvre que cette source est plus intime à moi-même que je ne suis intime à moi-même. Je découvre le Créateur comme père de ma vie spirituelle. Et si je découvre le Créateur comme père de ma vie spirituelle, je le découvre comme ayant sur moi autorité parce qu'il connaît ce pourquoi je suis fait. Il m'a créé en vue de mon bonheur pour que mon esprit puisse atteindre sa finalité. Et donc, le Dieu créateur, Père, est en même temps celui qui a autorité sur moi parce qu'il connaît mieux que moi ma finalité. L'autorité repose sur la découverte de la finalité. Quelqu'un qui a le sens de la finalité de l'autre, donc de l'homme comme tel, peut exercer son autorité sur l'homme. Celui qui n'a aucun sens de la finalité, l'autorité redevient un art. Machiavel, une habileté, une compétence, les technocrates. Et il n'y a plus de finalité. Il n'y a plus que l'efficacité. Vous êtes compétent, vous réussissez, tant que vous réussissez, vous avez l'autorité. Le jour où vous ne réussissez plus, le jour où votre compétence n'est plus à jour, vous vous n'avez plus d'autorité. Voyez, je crois qu'il faut saisir ça pour découvrir à ce moment-là que Dieu est providence. Et l'autorité, c'est découvrir que le Père, qui est mon Créateur, est providence. Et parce qu'il est providence, il est capable de me montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais en vue de mon bonheur. Il me guide, il me conduit dans l'acte d'adoration. Je découvre à la fois ma dépendance et je découvre en même temps ma capacité de répondre. À la du Dieu Père, du Dieu Providence sur moi, à découvrir la loi profonde qui me conduit vers ma finalité, la loi naturelle qui provient de la Providence, et me conformer à cette volonté du Dieu Père sur moi. Voyez comment l'obéissance vertueuse de l'adoration. Parce que c'est à partir de l'adoration que je découvre l'autorité paternelle de Dieu. Ça, j'en suis sûr de ça. Ou je suis moins sûr et où je pose un point d'interrogation. Est-ce que avant l'acte d'adoration, je puis découvrir une véritable autorité? Je peux dire évidemment que quelqu'un qui a plus vécu que moi, donc le pater familias, le père, a un droit de conseil, il a plus vécu que moi, mais a-t-il autorité sur mon esprit? Parce que l'acte d'obéissance, c'est faire une telle confiance une autre personne comme étant plus capable que moi de m'orienter vers mon bonheur. C'est ça l'acte d'obéissance. C'est pour ça que c'est si difficile, humainement parlant. Faire confiance à une autre personne comme ayant plus comme ayant une vision, une connaissance sur moi en tant qu'ordonnée vers le bonheur, que la connaissance que j'ai de moi-même. Autrement, je ne dois pas obéir. Et je dirais, je me connais mieux que vous me connaissez. Je sais mieux ce qui me convient que ce que vous me dites. C'est les tentations permanentes qu'on connaît très bien et qu'il faut expliciter du reste. Il faut les faire sortir des tentations. C'est ça l'ouverture du cœur. Et quand vous faites sortir ces tentations, alors à ce moment-là, vous êtes libéré. Vous dites, ah mais c'est sûr, je suis bête. Je me croyais plus capable de me diriger que celui qui providentiellement est près de moi comme ayant autorité. C'est ça l'obéissance, hein. Et c'est ça la tentation permanente de l'obéissance. Vous voyez, c'est d'ordre spirituel l'obéissance. C'est pas d'ordre de la génération selon la chair et le sang. La génération selon la chair et le sang permet de mettre des guides, de mettre des artistes autour de moi, de mettre des gens qui ont des compétences plus grandes que moi, puisqu'ils sont plus âgés que moi, c'est évident. Mais est-ce que l'aspect de la génération et du temps permet de faire apparaître une autorité? Je crois pas. Je crois que la première autorité qu'on découvre, c'est la Providence. Vous voyez, historiquement, historiquement ici. C'est vrai. C'est les stoïciens qui ont découvert la providence. Et c'est les stoïciens les premiers qui ont découvert l'autorité de Zeus. Et qu'il faut mieux obéir à l'autorité de Zeus que de faire n'importe quoi d'autre. Alors ils l'ont pris de façon très matérielle. C'est intéressant de voir que les stoïciens ont découvert ça. C'est intéressant de voir que les philosophes, les purs philosophes ont découvert ça. C'est pas une question de révélation, c'est une question d'intelligence humaine. Poussez votre intelligence jusqu'au bout, vous découvrez l'autorité. Mais je crois que c'est une des choses les plus difficiles pour mon intelligence pratique de découvrir l'autorité. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Où les traditions religieuses sont nulles, ont été détruites. Et donc il faut la métaphysique. Il faut la métaphysique pour fonder l'autorité. Alors voyez, pour comprendre que l'autorité repose sur le point de vue de l'adoration. Il me semble qu'on doit dire ça. Parce que si on ne dit pas ça, on ne comprend pas ce que c'est que la véritable autorité. L'autorité, c'est celui auquel je me remets prudentiellement, parce que la prudence est née avant, prudentiellement, sachant que celui auquel je me remets a une connaissance pratique, morale, éthique, plus profonde que moi par rapport à mon bonheur. Autrement, je n'ai pas le droit de me remettre à lui. C'est pour ça, vous voyez, l'autorité des parents est limitée jusqu'au moment où l'enfant est capable d'orienter sa vie. Ce n'est pas les parents qui ont une autorité pour orienter la vie des enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus les parents, c'est la psychologie qui doit vous déterminer dans tel ou tel sens. C'est un examen, un test, et puis on vous dira en fait ça. Alors, c'est pas une orientation fondamentale, c'est une orientation de compétences, très bien, dans l'ordre des compétences, très bien. Mais ce n'est pas une autorité morale. La compétence n'est jamais une autorité morale. Quand il n'y a que la compétence seule, il faut aller beaucoup plus loin pour découvrir ce que c'est que l'autorité morale. Il faut découvrir celui qui est capable d'orienter vers le point de vue d'avant. Or, il me semble que c'est à partir de la découverte de l'adoration du Dieu créateur et du Dieu providence, du Dieu Père. Et c'est du Dieu Père que je découvre ce point de vue-là. Et alors, Dieu exerce sur moi cette paternité qui fait que je peux me remettre entre ses mains pour ordonner vers la finalité. Donc, je crois que là, nous avons la découverte philosophique de l'autorité et de la vertu d'obéissance, dépendante de la prudence. Il faut avoir ce point de vue prudentiel pour découvrir cette véritable autorité. Alors réfléchissez beaucoup là-dessus. Et s'il y a des questions, vous les